Ils habitaient une maison en pilier de cristal sur la planète Mars, au bord d'une mer vide.
Tu vois, ici Bear, c'est un mix de Metropolis, Blade Runner et Terminator 2.
Nous pouvons adopter comme devise de la cybernétique l'expression « c'est probablement faisable ». Pour l'humain, c'est faisable. Pour la machine, c'est probablement faisable.
L'image de synthèse, c'est rien. Ce qui importe, c'est l'imagination. Si vous avez la technique sans imagination, on ne va nulle part.
Dis, papa, comment faisaient les dinosaures avant les ordinateurs?
On filmait les lézards en gros plan, ma puce.
Le spectateur de demain sera immergé dans un monde virtuel d'images de synthèse.
Avec des acteurs en images de synthèse, plus de problèmes d'ego, de star, de ciné.
Si belle acteur, si belle actrice, le jour où l'impérialisme hollywoodien sera créé des Schwarzy sur ordinateur, notre seul moyen de lutte sera de programmer des virus pour qu'ils refusent de travailler.
Le cyberspace est une hallucination collective. N'est-ce pas une définition applicable à la télévision?
Bonjour, ici le service du réveil.
L'information veut être libre, ça vous dit quelque chose? C'est le slogan de la contre-culture informatique.
Quand William Gibson publie en 1984 Le Neuromancien, le petit cercle somnolent et aseptisé de la SF traditionnelle en est tout secoué. Voici un roman qui capte enfin le désir d'une génération, qui donne une représentation écrite à un univers qui n'existe encore que par bribes, dans la musique ou chez les mordus de l'informatique. Un univers à la fois craint et rêvé, que Gibson libère et qu'il transforme en mythe, le cyberpunk. La première phrase du Neuromancien devient la phrase originelle du mouvement cyberpunk.
Le ciel au-dessus du port était de la couleur d'un écran de télé calé sur un canal ayant cessé d'émettre.
Pourtant, rien ne prédisposait Gibson au rang d'auteur culte. Ayant définitivement quitté les USA en 67 à 21 ans pour échapper au Vietnam, il végète au Canada pendant toutes les années 70. En 77, c'est le punk, et en même temps pour Gibson, la rencontre avec une bande de nerds, ces fous d'ordinateurs déjà connectés sur un internet encore à l'état embryonnaire. À 30 ans passés, l'écrivain se révèle. Gibson publie en 81 sa première nouvelle, puis le Neuromancien qui fait connaître au monde entier l'existence du cyberspace.
Le cyberspace, une complexité impensable, des traits de lumière disposés dans le non-espace de l'esprit, des amas et des constellations de données, comme les lumières de ville dans le lointain.
Gibson se voit élevé au rang de prophète de la nouvelle culture cyberpunk.
J'étais en train de faire des dédicaces dans une librairie de San Francisco l'année dernière et deux gars sont arrivés sur leur moto, tout en cuir, les cheveux très courts. Ils avançaient vers la librairie et au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de moi, je pouvais voir la déception qui se lisait sur leur visage, comme s'ils réalisaient « Mais oui, en fait, c'est lui !»
Apparaissent de nouveaux auteurs qui se reconnaissent dans la mouvance cyberpunk. En 88, une anthologie, Mirror Sheds, les réunit. Tous ont en commun avec Gibson la même attirance pour un monde déglingué à la Blade Runner, où, sur une terre féodalisée en tribus, clans et mafias, des types démolis par les drogues, la crise, la surpopulation, se débrouillent pour survivre comme ils peuvent avec des implants de réalité virtuelle dans le cerveau. Durant ces 10 dernières années, Gibson a publié 5 autres romans avec plus ou moins de succès, parmi eux Mona Lisa 2000 et Virtual Light. Si le mouvement cyberpunk pendant ce temps s'est essoufflé, en 95 il refait surface avec la sortie du film Johnny Mnemonic dont Gibson est le scénariste.
Je sais que vous ne tirez pas.
Pas dans ma tête.
Phénomène de mode ou non, le plus paradoxal est que Gibson ait été élu le pape du cyberpunk alors que la culture informatique n'a jamais représenté pour lui qu'un thème littéraire parmi d'autres.
Quand finalement j'ai acheté mon ordinateur Apple et que je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis en marche et faisait un bruit bizarre, un peu sourd. J'étais en colère et j'ai appelé le vendeur pour lui dire « Quand j'essaye de faire ça, il fait un bruit comme ça. » Et le vendeur m'a dit « Monsieur, c'est le lecteur de disquettes. » Et j'ai dit « C'est quoi ça ?»
Bonsoir à tous. Le film que vous allez voir dans un instant est à lui seul une petite révolution. Tron est sorti en 1982 et utilisé à l'époque de l'animation électronique au cinéma constitue un pas décisif pour Disney, aussi déterminant que Blanche-Neige en 1937, premier film d'animation. Bien avant que Johnny Mnemonic aille fouiner à l'intérieur des ordinateurs, que Sandra Bullock soit traquée sur Internet, Tron se lançait donc déjà dans le cyberspace. À l'époque de Pac-Man et de Space Invaders, Disney propulsait un concepteur de jeux vidéo à l'intérieur même de son programme. Tron, c'est l'abréviation du mot électronique. Dans le film, on surfe entre les puces et on se bat contre les méchants pixelisés. Le réalisateur de Tron avait fait appel à l'époque à un français, Moebius, pour travailler sur le visuel. Tron est donc le premier film conçu par ordinateur, les éléments du décor ayant été ajoutés image par image. Sûrement un peu trop avant-gardiste, cette guerre des étoiles électroniques n'intéressa guère les Américains à l'époque. Alors, lâchez tout de suite votre joystick d'ordinateur pendant 92 minutes et plongez dans les circuits intégrés de Tron. Bon film.
Steve Jobs, c'est le fantôme d'Apple. En vain, vous courez après une image de lui qui s'est dissoute dans les méandres de la société de Cupertino. Jobs, le perfectionniste, personnage tourmenté, habité par le génie et doté du sens inné du beau. Jobs qui brûle sa vie à 100 à l'heure pour faire partager ses rêves de grandeur. Enfant difficile, il aurait pu très mal tourner si, à 15 ans, il n'avait fait la connaissance d'un barbu surdoué, Steve Wozniak, de 5 ans son aîné. Piratage téléphonique, création de jeux, entre autres le jeu Breakout, les deux compères rivalisent d'ingéniosité. En 75, c'est le premier micro-ordinateur, l'Altair. Wozniak conçoit son propre modèle, l'Apple 1. Jobs voit plus loin et persuade Woz de fabriquer un micro-ordinateur pour le grand public, ce sera l'Apple 2. L'Apple 2 devient le premier micro-ordinateur à succès. Et dès la fin 77, Apple commence à faire des bénéfices. Mais l'esprit de Steve Jobs est déjà ailleurs. Il a l'ambition de concevoir l'ordinateur du futur et lance alors le projet Macintosh. Pour se donner toutes les chances de réussir, Jobs persuade John Sculley, président de Pepsi-Cola, de rejoindre Apple. Le 23 janvier 1984, lors d'une mi-temps de la finale du Super Bowl, un spot de pub annonce à l'Amérique tout entière la naissance du Macintosh. Le message passe, le Mac va révolutionner l'informatique triste et rebutante et Jobs se positionne délibérément comme le rival de la Big Blue.
It is now 1984. IBM wants it all and is aiming its guns on its last obstacle to industry control, Apple. Will Big Blue dominate the entire computer industry? The entire information age? Was George Orwell right?
Telle une star du rock, Apple fait la une des médias, devient le nouveau symbole de la culture américaine. Les ventes du Mac démarrent de manière frénétique, 70 000 unités au cours des 100 premiers jours. Pourtant, la déconvenue est rapide. Macintosh n'est pas assez puissant pour supporter des logiciels ambitieux. Dès le mois de juin 84, la chute est vertigineuse et Apple est condamné à la faillite, faute d'une reprise en main rapide. John Sculley attendra plus d'un an avant de se résoudre à écarter Jobs de toute responsabilité directoriale. Après une ultime tentative de renversement de Sculley, Jobs s'effondre. Steve Jobs se ressaisit aussitôt et fonde une nouvelle compagnie, Next. Mais lorsqu'en octobre 1988, Next se lance à la conquête du marché, il est déjà trop tard. L'IBM PC et le Macintosh se sont définitivement imposés comme les deux incontournables du hardware et Next cesse la fabrication de ses machines en 1993. Ayant racheté en 86 la société Pixar, Jobs se lance alors dans une nouvelle aventure, les effets spéciaux pour le cinéma. Noël 95, le pari est gagné. Pour la première fois, un long métrage entièrement réalisé en images de synthèse est présenté au public, Toy Story. irréductible franc-tireur de la saga informatique, Steve Jobs poursuit son parcours du combattant.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Télécoute, la télé qu'on a rien à faire. Salut les ouf guédin, ça baigne. Vous voulez voir la suite? Alors cliquez.
Ah.
Fleur de bitume, go, 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 go. Mais qui es-tu, fleur de bitume? Mon premier est un rouleau de PQ, rose, triple épaisseur et parfumé. Mon deuxième est une magnifique tige de plastique, piquante et indestructible. Mon tout donne la fleur de bitume.
Bye bye.